Oui, vous savez, si vous me connaissez, que j'aime étudier la parole de Dieu, j'aime lire la Bible de manière suivie, creusée en profondeur, de prendre un livre de la Bible, de lire plusieurs fois, de chercher à comprendre la pensée de l'auteur, la structure du livre, comment Dieu désire se révéler à nous dans un texte précis. Et c'est ce qu'on va faire ce matin et la semaine prochaine, pour les 2 prochaines semaines. On va lire ensemble, on va passer ensemble au travers de la lettre de 1 Jean et voir ensemble ce que Jean désirait communiquer aux chrétiens de cette époque-là, mais aussi comment ce texte s'adresse à nous encore aujourd'hui. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible, à ouvrir votre application dans 1 Jean, qu'on va lire ensemble au cours des 2 prochaines semaines. On considère que c'est une lettre qui a été écrite, la lettre de 1 Jean a été écrite par Jean, le fils de Zébédée, hein, un des 12 apôtres, qui était également l'auteur de l'Évangile de Jean, de 2 et 3 Jean, et de l'Apocalypse de Jean. Et vous allez voir, si vous prenez le temps de lire l'Évangile de Jean, qu'il y a beaucoup, beaucoup de termes qui reviennent, qui sont très semblables, qu'il y a beaucoup de références d'un bord et de l'autre. C'est une lettre qui aurait été écrite, Jean aurait été à Éphèse, à cette partie-là, vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il s'adresse aux églises de l'Asie mineure, de toute la région autour de lui, la Turquie actuellement. Et malheureusement, comme c'est souvent le cas dans des lettres du Nouveau Testament, il y a un problème dans les églises de la région. Il y a des faux enseignants qui étaient autrefois dans l'église et qui se promènent d'une église à l'autre et qui enseignent une nouvelle doctrine. Jean va les appeler un peu plus tard les antichrists, hein, parce qu'ils sont contre Christ. Jean, il est très, vous allez voir, il est très, il est blanc ou noir, c'est très radical. Il les appelle des antichrists. Donc, il y a des faux enseignants qui se promènent, qui enseignent une nouvelle doctrine qui est inspirée de quelque chose qui va s'appeler le gnosticisme, qui va se développer dans les années qui suivent, et qui croient que tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel est mauvais. Tout ce qui est esprit, ce qui est spirituel, est bon. Et donc, eux vont se promener, ils vont dire, si ça c'est vrai, ça veut dire que Christ n'a pas pu être physique. Ils vont dire que Christ n'avait pas de vrai corps, qui était un peu une illusion, un fantôme, parce que le physique, c'est mauvais. Ou Jésus ne peut pas être Dieu. Hein, c'est juste un homme qui a été animé par l'esprit du Christ entre le baptême et la croix, mais que Jésus n'est pas Dieu. Et ça dérange, hein? Ça dérange Jean, ça dérange tout son enseignement. Il y a un gros problème avec ça. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, ou si Christ n'a pas de chair et n'est pas humain, bien son œuvre à la croix, elle ne fonctionne pas. Parce que Jésus est mort en tant qu'humain sur la croix et a donné sa vie pour nous. Et Jean dit, oh, il y a un problème avec ça. Et vous allez voir, alors qu'on va lire, il va revenir régulièrement sur l'importance que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et en plus, ces enseignants-là, en se disant qu'il y a juste l'esprit qui est bon, en venaient même à dire qu'il faut soit traiter son corps très sévèrement ou dire les péchés commis dans notre corps, ça n'a pas d'impact. C'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut. Donc, il y en a qui enseignaient que tout était permis, que le péché n'existait même pas, que la loi de Dieu n'était pas nécessaire. Et vous pouvez imaginer comment ça peut amener à des dérapages. Et en plus, eux croyaient qu'il y avait une connaissance secrète qui dépassait toutes les autres connaissances, qui dépassaient même l'Écriture, et qu'on peut seulement recevoir si quelqu'un qui a la connaissance nous l'enseigne. Et comme par hasard, ces enseignants-là avaient cette connaissance-là. Hein, ils disaient donc, hey, j'ai un secret, j'ai quelque chose à te dire que tu peux juste réaliser, connaître, si moi je te le dis. Et vous allez voir, Jean va parler régulièrement de comment c'est l'Esprit qui nous fait connaître toutes choses. Et eux avaient un mépris. Parce que si on ne les écoutait pas, ils les rejetaient. Il y avait un manque d'amour pour les autres. Mais ils créaient surtout, tout leur enseignement faisait peur. Ils créaient une inquiétude chez les chrétiens. Hein, c'est une autre époque. Le pasteur n'est pas accessible facilement. Jean, il est loin. Et ils ont plein de questionnements, ils ont plein de doutes. Ils se disent, mais là, si ces gens-là, ils enseignent, en plus, ils ont une bonne argumentaire, ils se questionnent sur leur foi. Ils se questionnent, est-ce qu'on a cru la bonne chose? Est-ce qu'on est sauvé? Et beaucoup d'inquiétudes sont perturbées et se questionnent sur la vérité, sur leur propre salut. Et c'est dans ce contexte-là que Jean va écrire sa lettre. Et alors qu'on va lire ensemble, je vous invite à porter attention à certains termes qui reviennent régulièrement. L'humanité et la divinité de Jésus. La réalité du péché. L'importance de l'obéissance, d'obéir à Dieu. La possibilité pour tous, pour chacun d'entre nous, de connaître Dieu. Que ce n'est pas limité juste à certains. L'importance de l'amour pour Dieu et pour les uns pour les autres. Et l'assurance qu'on peut avoir de notre salut. Et c'est des thèmes que Jean va ramener régulièrement. Et vous allez voir, Jean n'écrit pas comme on est habitué dans les autres lettres du Nouveau Testament. On n'est pas dans un argumentaire de point 1, point 2, point 3, conclusion. Jean écrit plutôt un sermon poétique qu'une lettre. Hein, c'est plutôt de manière cyclique, comme une grosse spirale, et on revient sur les mêmes thèmes avec des mots différents, et pour s'assurer que les gens les comprennent, que wow, ça c'est important, et qu'on les garde en mémoire. Et alors, dans les deux prochaines semaines, on va beaucoup revenir sur les mêmes thèmes, parce que c'est ça que Jean veut faire. Jean parle en absolu. Hein, il va parler de blanc versus noir, de lumière versus ténèbres, d'amour versus haine, de vie versus mort. On n'est pas dans oui, mais dans certains cas. Jean, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Il veut créer des images claires, qu'on comprend tout. C'est ça ou ça. Il va parler en absolu. Dans le but qu'on comprenne, qu'on fait « Ah, OK ». Donc, je vous invite à regarder avec moi 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. On rentre dans le texte. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alors, c'est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Dès le début de sa lettre, Jean affirme deux vérités importantes concernant Jésus. Hein? Il est Dieu de toute éternité. Hein? Il dit « celui qui était dès le commencement ». Cette vie éternelle qui est auprès du Père, hein, il parle, Jésus est là de toute éternité. Et ce Jésus s'est fait chair. Ce Jésus est venu sur la terre. Ce Dieu de toute éternité est venu et s'est fait homme. Et Jean parle en tant que témoin. Hein, il utilise des mots qui montrent comment ce n'était pas juste une image, une vision. On l'a touché, on l'a entendu, on l'a vu, on l'a contemplé. On le témoigne et on le déclare. Et dès le début, il dit, c'est vrai, là, je l'ai vécu, j'étais avec lui. Et c'est essentiel en tant que chrétien qu'on comprenne cette doctrine qu'on appelle l'incarnation. Hein, Jean écrit dans l'évangile de Jean, Jean 1, 14, « La parole s'est faite homme, Dieu s'est fait homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus est pleinement Dieu et pleinement humain. Il n'est pas à moitié Dieu et à moitié humain. Il n'est pas seulement Dieu et aucunement humain, ou seulement humain et pas Dieu du tout. Hein? Il est pas genre, ah, c'est un enseignant, c'est un philosophe, ou ah non, c'est juste Dieu qui est au ciel. La Bible nous enseigne que Jésus est entièrement Dieu et entièrement humain. C'est un concept difficile à comprendre parce qu'il y a juste Jésus qui est comme ça. Il n'y en a pas d'autre avant, il n'y en a pas d'autre après. Il y a seulement Jésus qui est Dieu fait chair. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à croire en Christ, s'il demeure une réalité spirituelle, un concept, OK, il y a une force au ciel, OK, ça va, je suis capable de croire en ça. Ou s'il demeure juste un homme qui est venu, qui a enseigné des belles choses. Mais quand on dit que Dieu est pleinement Dieu est que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, ça, ça dérange. Parce que ça nous oblige à accepter que Dieu avait besoin de venir sur la terre en tant qu'humain. Qu'il avait besoin de mourir sur la croix pour nous. Ça oblige à dire, je ne peux pas par moi-même vivre une bonne vie. Je ne peux pas par moi-même être assez bon pour Dieu. Ça oblige à reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, qu'on doit faire ce que Jésus nous appelle à faire. Hein, qu'on est obligé de répondre, de savoir que Jésus est Dieu qui est venu sur la terre. Ça nous oblige à répondre à ce Jésus-là qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et on est face à une affirmation, et si on croit qu'il est Dieu et homme, et qu'il dit « Je suis le chemin », on est obligé de répondre. On est obligé de prendre position. Et ça dérange les gens. Parce que de dire « Ah, c'est des belles pensées, ça fait du bien », c'est facile. De dire « Ah, c'est une force dans le ciel, d'accord, ça n'a pas beaucoup d'influence sur ma vie », c'est facile aussi. Mais de dire « Jésus est là, il est le chemin, la vérité et la vie », ça vient déranger. Ça oblige à prendre position. Une position qui change tout, hein? Parce que non seulement je dis « Ah oui, j'y crois », mais il faut que ma vie change aussi. Mais c'est essentiel pour Jean, c'est essentiel pour nous. Parce que pour Jean, on le voit dans si on peut revenir juste le PowerPoint avant, on le voit au verset 4, hein, et au verset 3 et 4, il dit, « Nous sommes en communion. » C'est cette vérité qui nous permet d'être en communion avec le Père, avec Jésus-Christ, et en communion les uns avec les autres. Et c'est un terme qui va revenir souvent dans la lettre, la communion, le grec dit « koinonia ». C'est partager quelque chose en commun, qui est significatif et important. C'est ça, être en communion. C'est pas juste avoir parlé les uns avec les autres, mais c'est d'avoir quelque chose d'important, de significatif qui nous unit. Et Jean aime tellement l'Église, la communauté de ceux qui croient en Jésus, qu'il désire que tous puissent y prendre part. Hein, il dit, c'est ça qui va faire ma joie parfaite, que vous soyez en communion avec nous, comme nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils. Est-ce que vous êtes réjouis par la communion des frères et des sœurs? Est-ce que vous espérez qu'il y ait de plus en plus de gens qui connaissent Jésus? Parce que vous dites, hey, c'est la chose la plus merveilleuse, je veux que tout le monde le vive. Jean dit, c'est ce qui fera notre joie parfaite. Et j'espère que ça va nous motiver aussi, après les messages qu'on a eus dans les dernières semaines, d'aller, qu'on puisse être réjouis de voir des gens qui donnent leur vie au Seigneur, qui se joignent au peuple de Dieu. Et après cette introduction, qui okay, wow, déjà, on aurait pu faire un message juste là-dessus, que plusieurs font beaucoup penser au prologue de 1er Jean, de Jean 1, excusez, Luc va diviser sa lettre en deux parties. Et chacun va débuter par la phrase « Voici le message que nous avons reçu et que nous vous annonçons. » Et le message va se résumer en deux choses. Un, Dieu est lumière. Et deux, Dieu est amour. Et on va lire ensemble à partir du verset 5. Jean écrit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. » L'idée que Dieu est lumière, c'est une partie intégrale de l'Évangile. Hein, c'est une image qui montre le contraste entre qui est Dieu et qui nous sommes sans lui. La lumière, quand ça éclaire, ça permet de voir. La lumière, c'est une source de vie. Coupez la lumière si vous avez des plantes chez vous. Hein, vous savez qu'ils ont besoin de lumière. Mettez-les dans une pièce où il n'y a pas de soleil et vous le découvrez assez vite. L'automne et l'hiver, quand il y a moins de lumière, qu'on est moins en vie. Hein? Ça nous affecte, la lumière. Ça a une influence sur nous. La lumière, ça fait que la nuit, on ne se cogne pas. Que si on marche dans le bois, on voit où on va. C'est un mot qui revient, le mot lumière revient plus de 275 fois dans la Bible. On voit entre autres dans le psaume 27, au verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? » Jean écrit dans Jean 12, au verset 36, « Pendant que c'est Jésus qui parle, il dit, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » Hein, il y a quelque chose là, la lumière, Jean utilise cette image, c'est l'absence de ténèbres. Jésus va dire dans Jean 1, 4, ben Jean va dire, « En elle, en Jésus, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. » Jésus va dire dans Jean 8, verset 12, il dit, « Je suis la lumière du monde. » « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Cette belle image pour Jean, la lumière de Dieu, c'est une source de vie. Elle nous guide vers la vie. Il y a cette image-là de marcher dans la nuit et que ceux qui suivent la lumière s'en vont dans le bon chemin. Ils s'en vont vers la sortie ou vers, ce que Jean va dire, vers la vie. Mais que les autres qui cherchent par eux-mêmes dans les ténèbres, ils se cognent partout, ils tombent dans des trous, ils manquent le bon chemin. Il dit, suivez la lumière. Et c'est un message qu'on doit être passionné de partager avec le monde. Nous qui avons reçu la lumière, on doit également devenir une lumière dans le monde. Ça doit être au centre de notre vie de vouloir apporter la lumière dans les endroits les plus sombres. Là, il y a des ténèbres. Parce que cette lumière, c'est la vie. Cette vérité que Dieu est la lumière qui nous sort des ténèbres, c'est la source de notre vie. Et ça doit être ce qu'on veut partager avec tous. Et Jean commence par affirmer que Dieu est la lumière. 1 Jean 1, verset 6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Je vous l'ai dit, Jean est dans des absolus, hein? Vérité ou mensonge? Lumière ou ténèbres? Et à trois reprises, Jean va utiliser cette expression « si nous disons » pour nous aider à voir le péché comment on devrait le voir, à le voir comment Dieu voit le péché. Jean, il parle au verset 6 et 7 de gens qui disent « Je connais Dieu ». Il dit « Si nous disons que nous connaissons, nous sommes en communion avec lui, que nous le connaissons, mais nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. » Donc, il dit des gens qui disent « Je connais Dieu », mais dont les croyances, dont les actions contredisent ses paroles. Des gens qui disent qu'ils sont en communion avec Dieu, mais qui nient que Jésus est Dieu, qui diminue l'importance de leur péché, qui dit « c'est pas grave, j'ai pas vraiment péché ». Et Jean dit « ils sont des menteurs, ils connaissent pas vraiment Dieu, ils sont pas en communion réelle avec lui ». Parce que pour Jean, ceux qui connaissent vraiment Dieu, hein, qui ont une relation intime avec lui, ben ils sont également au diapason avec Dieu sur ce qui concerne la vérité de Dieu, sur la sainteté, la droiture à laquelle Dieu nous appelle. Jean est en train de dire, si vous connaissez Dieu, ce que vous croyez sur Dieu et ce que vous faites pour obéir à Dieu va être relié à ça. Donc, si vos actions et vos croyances ne sont pas ce que Dieu enseigne, bien, vous ne connaissez pas Dieu. Et là, il dit, hein, il y a des gens qui disent « Je suis sans péché ». Là, on est comme « Ouais, on ne dit pas ça, nous, mais on l'a déjà entendu de d'autres manières. Hein? Oh, mais j'ai assez fait de bonnes choses. Ah, mais ça va, là, je vis une bonne vie. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'être pardonné. J'ai pas besoin d'avoir Jésus comme sauveur. » À ces gens-là, j'en dis, tu dis que tu es sans péché, mais Dieu affirme que tu es un pécheur. Tu dis que tu n'as pas besoin d'un sauveur, mais Dieu affirme que tu es perdu sans lui. En Romains 3, 23 dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et on pourrait dire, « Bon, c'est fini de même. » Enfin, mais là, ça nous écrase, hein? Jean ne nous laisse pas juste sur le fait qu'on est pécheur. Jean nous le mentionne parce que c'est important, parce qu'il y a des gens qui disent, « Mais non, je suis sans péché, moi, je suis une bonne personne, je peux faire ce que je veux, c'est pas grave, je vais être accepté par Dieu parce que Dieu est amour. » Jean dit que si on se met d'accord avec Dieu et qu'on reconnaît que nous sommes pécheurs, mais Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Ceux qui reconnaissent, qui admettent leur péché, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur, ils sont pardonnés. Ils sont sauvés. C'est là l'idée, c'est de dire, je ne peux pas par moi-même, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et quand on reconnaît notre besoin, Jean dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Jean nie pas qu'on a un besoin profond d'être vu sans péché. Hein? On a ce besoin-là dans notre cœur. Quand on sait qu'on est pécheur, on a besoin d'être vu sans péché. On a besoin que Dieu nous regarde et dise, « Tu es pardonné. » Et c'est pour ça que Jean écrit que nous avons un défenseur et une victime expiatoire. Regardons ensemble 1 Jean 2, 1 et 2. Versets 1 et 2. « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Jean est très conscient, parce que ça pourrait être très lourd de dire, OK, on est pécheur, puis c'est ça. Puis là, il dit, hein, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, puis là, ça nous met encore plus un fardeau. Bien là, moi, ça m'arrive de pécher, mais là, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Mais Jean dit, si quelqu'un a péché, et on comprend très bien que c'est ça va arriver, nous avons Jésus. Hein, nous avons cette promesse qu'on peut grandir alors qu'on est en communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. On a cette promesse que Jésus est deux choses. Premièrement, il est un défenseur, un avocat auprès du Père. Hein, c'est le mot parakletos qui veut dire une aide, celui qui est appelé à se tenir à nos côtés quand on a besoin. Il est notre aide quand on pêche. Il est celui qui nous purifie de nos péchés, qui nous pardonne, qui nous rend juste devant le Père. En ce moment, Jésus est à la droite de Dieu, et quand on vient à lui avec repentance, il est là auprès de Dieu et il parle en notre faveur. Et ce qui fait que Jésus est capable de parler en notre faveur, c'est parce qu'il est ce que Jean appelle une victime expiatoire. Celui qui s'est sacrifié pour nous. Celui qui a payé le prix à notre place. Jésus a payé le prix de nos péchés. Hein, par son sacrifice à la croix, il a payé le prix qu'on devait payer. Il a pris le jugement et la colère qui nous étaient destinés, il l'a pris sur lui. À la croix, la sainteté et l'amour de Dieu sont pleinement révélés. un Dieu juste et saint, mais un Dieu rempli d'amour qui se donne pour nous. Et c'est pour ça que Jésus peut nous être notre défenseur. Parce qu'alors qu'on vient avec repentance, Jésus dit, j'ai payé le prix pour lui. Son péché est déjà pardonné. Il est notre avocat, notre défenseur. Et Dieu rempli d'amour peut juste dire non coupable. Et alors qu'il y a des gens dans l'église de Jean ou dans les églises alentours qui disent « Oh, le péché, c'est pas grave. » Jean dit « Non, non, le péché, c'est très grave. Il ne faut pas banaliser le péché. Mais Jésus a fait l'œuvre de la croix et quand on vient à lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Pas pour faire comme si ça n'existait pas, mais pour nous pardonner. » On continue. 1 Jean 2, verset 3. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il l'a lui-même vécu. Jean va proposer trois tests, trois manières de savoir est-ce que je connais vraiment Dieu? Hein, parce qu'il a parlé au début d'être en communion, de connaître Dieu. Il va donner trois tests. Le premier test, c'était ce qu'on a vu au début, c'est est-ce que je crois les bonnes choses à propos de Jésus? Hein, c'est le test théologique. Est-ce que je crois les bonnes choses? Le deuxième test que Jean présente ici, c'est est-ce que j'obéis aux commandements de Dieu? C'est le test moral. Et le dernier test qu'on va voir plus tard, c'est est-ce que j'aime les autres? Hein, le test éthique. Et régulièrement dans nos vies, ça vaut la peine de se poser ces trois questions-là. Est-ce que je crois les bonnes choses à propos de Jésus? Est-ce que j'obéis à ce que Dieu me demande? Et est-ce que j'aime les autres? Et s'il y a quelque chose là-dedans qui, ça marche moins ou je ne suis pas sûr, ça vaut la peine de se questionner puis de se recentrer. Le but de Jean, c'est qu'on sache qu'on le connaît vraiment, qu'on ait l'assurance de notre salut. Il va dire, si vous gardez ses commandements, mais c'est une preuve que vous l'avez déjà connu. En 1 Jean 14, 15, dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Jean va écrire plus tard dans 1 Jean 5, 3, « En effet, l'amour de Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau. » Aimer Dieu et le connaître, c'est de lui obéir. Pour Jean, connaître Dieu et l'aimer, c'est intimement relié. Hein, il va utiliser les mots plus de 40 fois chacun, juste dans la lettre de 1 Jean. L'idée d'aimer et de connaître Dieu, c'est essentiel. Pour lui, c'est relié ensemble. Et les deux mènent toujours à l'obéissance. Si je connais vraiment Dieu, si je l'aime vraiment, je veux lui plaire, je veux faire sa volonté. Et pour Jean, il y a une différence importante entre juste dire, « Ah, je connais Dieu », et vraiment faire quelque chose. Entre juste dire et vraiment connaître. On peut dire plein de choses, mais ce qui prouve vraiment qu'on connaît, qu'on aime, c'est comment on agit. Et plus j'apprends à connaître Dieu, plus je le découvre. Plus je découvre sa beauté, sa gloire, sa majesté, plus je trouve mon plaisir à lui obéir. Hein, Jean va dire, obéir à Dieu, ce n'est pas un fardeau. En fait, c'est une bénédiction. C'est ma réponse naturelle quand je réalise ce qu'il a fait pour moi. Quand je réalise à quel point il m'aime, je veux lui plaire parce que je me dis, ce qu'il me demande de faire, c'est le meilleur pour moi. Et quand on connaît vraiment Dieu, lui obéir, c'est un plaisir. Le désir d'obéir à Dieu, notre décision de l'obéir, c'est une confirmation qu'on le connaît. Hein? Garder ses commandements, ce n'est pas une condition pour connaître Dieu. Ce n'est pas, si tu veux connaître Dieu, tu dois d'abord lui obéir. On n'est pas sauvé parce qu'on garde ses commandements. Mais c'est une indication qu'on le connaît. C'est une indication qu'on est sauvé. Si je veux plaire à Dieu, si je veux lui obéir, c'est parce qu'il a fait une œuvre dans mon cœur. Parce que le péché en moi m'attire loin de Dieu. Inquiétez-vous pas, je vous rappelle ce que Jean a dit plus tôt. Si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. On n'est pas ici en train de dire, dès que vous brisez un commandement, c'est la preuve que vous ne connaissez pas Dieu. Mais plutôt, comment est votre cœur? Est-ce que vous désirez lui plaire? Ça, c'est une preuve que vous connaissez vraiment Dieu, que vous êtes en communion avec lui. Et alors qu'on obéit à Dieu avec constance, qu'on revient à lui, qu'on se repent et qu'on est purifié de nos péchés régulièrement, qu'on garde sa parole, notre amour pour Dieu grandit et est amené à maturité, est amené à la perfection. C'est en demeurant en Christ, c'est ça que le texte dit à la fin, de demeurer en lui. C'est en demeurant en Christ qu'on devient capable de vivre comme lui. Ce n'est pas par notre force. Je le fais en lui. Verset 7. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Mais là, commandement ancien ou commandement nouveau? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et quel est ce commandement? Jean 13, 34 et 35, c'est Jésus qui parle, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais si on lit notre Bible, on fait comme, « Ben non, mais c'est pas nouveau ça. La loi est basée sur l'amour les uns pour les autres. » Jésus va dire, il y a deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de ton cœur, de ton âme, de toute pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là depuis toujours. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans le sens du temps, mais c'est nouveau dans le sens de sa fraîcheur de qualité dans nos vies. Ça remplace le vieux puis l'usé. L'amour, c'est pas nouveau. Mais il est nouveau en nous, dans notre conversion. Il est nouveau dans sa révélation. Il est nouveau dans son expérience, dans son expression, dans son endurance. Jean est en train de dire, c'est pas quelque chose de nouveau, mais en vous, dans ce que Jésus a fait, comment c'est révélé en vous, c'est nouveau. C'est une nouvelle vie. De s'aimer les uns les autres. Et Jean continue, verset 9, il dit, « Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans la lumière, il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Encore là, des absolus, celui qui aime et celui qui déteste. Il y avait des gens comme les faux enseignants qui rejetait ceux qui étaient pas, qui croyaient, qui rejetait les autres parce qu'ils, dès qu'ils acceptaient pas leurs enseignements. C'était le toit. Et c'était littéralement, Jean va dire, il les détestait. Les gens étaient en train de dire, non, vous les chrétiens, les vrais chrétiens qui êtes attachés à Dieu, qui vivez dans la lumière, vous vous aimez les uns les autres. Parce que c'est le commandement que Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Jean dit, si vous êtes dans la lumière, ce qu'on devrait voir, ce qui devait briller en vous, c'est de l'amour les uns pour les autres. Si vous vivez dans la haine de l'autre, dans le mépris de l'autre, dans le jugement de l'autre, puis que c'est ça que vous nourrissez, Jean dit, ce que ça révèle, c'est que vous êtes dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Hein? Il parle de l'idée de marcher dans les ténèbres. C'est marcher, puis là, je fais attention, je ne veux pas me frapper les yeux fermés sur les... Ça, j'ai oublié le nom. Mais... Oui, mais c'est le pied de micro. Merci à moi. Mais il dit, vous marchez, puis vous vous cognez partout. Hein? Vous risquez de... sans savoir où vous allez. Mais si vous êtes dans la lumière, vous marchez dans une voie qui est claire, dirigée par le Seigneur. Et que fait celui qui est dans la lumière vraiment? Il démontre l'amour de Dieu aux autres. Pour Jean, c'est clair, vous voulez savoir si vous êtes en communion avec Dieu, si vous êtes dans la lumière, comment vont vos relations? Comment est-ce que vous agissez envers les autres? Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Alors qu'on aime les autres, Jean dit, on demeure dans la lumière, on démontre qu'on a la vie de Dieu en nous. En détester son frère, son prochain, ça révèle ce qui est dans notre cœur. Ce n'est pas l'action de détester qui nous conduit dans les ténèbres, mais l'action révèle ce qui est dans notre cœur, que ce soit la lumière ou les ténèbres ou la noirceur. Et Jean dit, il y a des gens qui disent « je suis dans la lumière », il y a des gens qui disent « je suis proche de Dieu », mais leur comportement, leurs actions envers les autres, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de générosité, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas d'amour. Il dit « mais non, vous n'êtes pas vraiment dans la lumière ». Et sans être dans les absolus comme Jean, ce matin, je vous invite à regarder nos cœurs. Comment est-ce que je suis avec les autres? Avec les frères et sœurs dans l'Église? Avec les gens de ma communauté? C'est quoi mon réflexe? C'est quoi qui vient naturellement en moi? Est-ce que c'est de l'amour pour l'autre? Dans toute sa différence? Ou est-ce que c'est un sentiment de « oh! » de mépris, de rejet? D'égoïsme. Jean dit, si nous sommes dans la lumière, nous aimons nos frères et nos sœurs. Et encore là, je nous rappelle un autre verset du début, si ça vous parle, vous vous dites, oh, moi, je suis plus d'un fois dans le rejet de l'autre. Ce que Jean nous dit, c'est, si quelqu'un a péché, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Si c'est quelque chose qui nous parle ce matin, Jésus dit, viens à moi. Viens à moi et je vais te transformer. Un Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits-enfants. J'aime ça, petits-enfants. Je ne vous appellerai pas petits-enfants, mais venant de Jean, je dis d'accord. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens. Ah, ça c'est moi. Parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Je vous ai dit que c'était moi. Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Jean s'adresse à des gens de plein de génération. On a l'expression spirituellement, ceux qui débutent dans la foi, des petits-enfants, ceux qui, les pères, ceux qui ont de l'expérience, qui ont connu Dieu depuis le commencement, et les jeunes qui grandissent, qui progressent. Et les encourage. Et là, il continue, « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jean parle ici de, il dit, il y a un amour qui est bon. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Mais il y a un amour que Dieu n'aime pas. C'est l'amour du monde. Et on ne parle pas ici de la création, du cosmos, de l'humanité. Ce n'est pas Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas le même terme. Mais c'est l'idée, la pensée de ce monde, l'esprit de ce monde. C'est aimer le monde, c'est ne pas avoir d'amour pour le Père. C'est de mettre notre amour dans des choses temporaires qui n'ont pas de valeur éternelle. Jean parle, il est en train d'ici de dire de ne pas aimer, de ne pas idolâtrer des pensées, des valeurs, des comportements qui sont contraires à la parole de Dieu, à sa volonté. Jean dit, faites attention, qu'est-ce que vous aimez? Il y a de quoi d'intéressant, je prends un instant pour le mentionner. Les trois choses que Jean nomme, dans la version Louis II, qu'on est plus familier avec, ça dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Est-ce qu'on a la version de... Parfait. Convoitise de la chair, les désirs de la chair, nos appétits, notre tendance à répondre à nos désirs naturels d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Je veux ça, je le désire, je le prends. La convoitise des yeux, bien, c'est ce qui attire nos regards, c'est les désirs de nos yeux. Et finalement, l'orgueil de la vie, c'est nos ambitions. Le « je, moi, mais ». C'est chercher à se glorifier plutôt que glorifier Dieu. Et on le trouve, c'est très intéressant, on retrouve ces trois choses-là, autant dans la tentation d'Adam et Ève, dans Genèse, que dans la tentation de Jésus. Et c'est les mêmes tentations à laquelle Adam et Ève ont failli et que Jésus, lui, a été capable de tenir et de dire non. La même tentation exactement. Genèse 3:6 dit, « La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, convoitise de la chair, je le veux, ça a l'air bon, agréable à regarder, convoitise des yeux, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Il me rend meilleur. Il fait de moi, Satan va lui dire, il va faire de vous des dieux. » Les trois mêmes tentations que Jean mentionne. Et dans Luc 4, il n'est pas à l'écran parce que c'est un long texte, mais Satan dit à Jésus, qui a faim, de changer les pierres en pain. Réponds à ton désir d'une manière, utilise le pouvoir divin pour répondre à ton désir, convoitise la chair. Satan lui montre les royaumes du monde et lui dit, tout ça pourra être à toi. Encore là, la convoitise des yeux, il lui montre quelque chose. Et Satan offre à Jésus la gloire immédiate. Il dit, lance-toi en bas du temple, les anges vont t'attraper, tout le monde fait, waouh, c'est le Messie, et tu vas recevoir la gloire immédiatement, au lieu de passer par la croix. L'orgueil de la vie. Et les trois mêmes tentations que Jean nomme dans 1 Jean résument tout l'ensemble des tentations. Et Jean dit, tout ça, c'est les choses de ce monde. Tout ça, c'est temporaire, ça passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Aimer Dieu en premier, plus que toute chose. Aimez votre prochain. Mais Jean dit, n'aimez pas le monde. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. J'arrête ici un instant. Alors, Jésus parle ici des faux enseignants dont je vous ai parlé plus tôt. Il dit « c'est la dernière heure ». Et pas dans un sens chronologique, hein, parce que ça fait 2000 ans que ces textes-là ont été écrits. C'est une longue dernière heure. Mais on parle plutôt d'un temps spirituel. C'est la dernière période, c'est le temps entre la première venue de Jésus et son retour. Toute cette période-là, aussi long soit-il, c'est la dernière heure, c'est les temps de la fin. En acte 2, verset 16, Pierre va dire, « Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël, « Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur tout être humain. » Hein, les derniers jours, c'est pas juste, il reste quelques jours. C'est une période où là, dans Acte, l'Esprit agit. Et où dans Jean, il dit, il se passe quelque chose. Cette idée-là d'un sentiment d'urgence qu'on doit ressentir lorsqu'on suit Christ, peu importe le moment ou l'époque dans laquelle nous sommes, sentiment d'urgence d'être appelé à être toujours prêt. À réaliser qu'on est toujours dans les temps de la fin, dans la dernière heure. Notre cœur doit vivre avec cette urgence-là de « il faut agir ». Il faut agir pour Christ. Et Jean reconnaît qu'à la fin, il dit « il y aura un antichrist ». Quelqu'un qui, plus que les autres, hein, il y a un A majuscule en français. Mais en attendant, il parle d'antichrist au pluriel, donc de gens qui sont contre Christ. Parce que c'est ça que ça veut dire, antichrist, ils sont contre Christ. Et lui, il nomme tous les faux prophètes, les faux enseignants, excusez, qui sont là. Il dit, c'est des antichrists, ils sont contre le Christ. Et on comprend que c'est certains qui ont quitté l'Église, qui ont renié la foi, qui ont renié Jésus en tant que Messie et Sauveur, et ils essayent d'égarer les croyants. Lisons ensemble verset 20. « Quant à vous, vous avez l'onction donné par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. » Hein, on a parlé plus tôt, ici, l'onction donnée par celui qui est saint. D'autres versions vont dire « donnée par l'Esprit Saint ». Vous avez toute connaissance. J'ai dit plutôt comment les faux enseignants disaient « il faut passer par moi pour avoir la connaissance. Hein, il y a une connaissance secrète qu'il faut seulement revenir par certains. » Jean dit « non, 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 c'est l'Esprit qui vous donne toute connaissance. » C'est encore le cas d'une fois aujourd'hui, on a des gens qui viennent et qui disent « j'ai la vérité, Dieu m'a révélé à moi quelque chose et je vais vous l'annoncer, c'est juste par moi. Suivez-moi hein, au lieu de suivre Jésus. » Et Jean dit « l'Esprit vous donne toute connaissance. » Verset 21, « Si je réécris, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. » Qui est menteur, n'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Et là, il répond à des problèmes de l'époque, des gens qui disent « Jésus, c'est pas le Messie, c'est pas le Sauveur. » Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Et c'est l'idée qui commence ici, demeurer en Christ. Il y a plein de choses qui se passent autour, qui peuvent vous inquiéter, plein de fausses doctrines que les gens entendent, mais lui leur dit, demeurez en Christ. Face à ces faux enseignements qui essayent d'éloigner les chrétiens de Jésus, qui créent du tumulte et des conflits, à cause de l'inquiétude qui et du questionnement, la réponse de Jean, elle est très claire. Demeurez en lui. Et on va aller lire au verset 28, alors que je vais inviter les musiciens. Jean vient d'adresser et dire, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de fausses croyances. Il y a des gens, hein, des antichrists qui viennent vous troubler. Et au verset 28, Jean va dire, voici comment agir quand ça arrive. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Jean ne passe pas son temps à présenter les points des faux enseignants et à contre-argumenter. Il ne dit pas, bon, voici ce qu'enseignent les faux enseignants, point 1, point 2, point 3, on va y répondre, on va y répondre, on va y répondre. Jean se concentre sur annoncer la vérité. Dès le début, il disait, voici ce que nous avons reçu et que nous vous annonçons. Pour lui, c'est plus important de parler de la vérité que de parler des faussetés. Jean se concentre d'enseigner la parole de Dieu. Jean dit que notre assurance, l'assurance de notre salut, elle se trouve quand on demeure en Jésus, quand on lui obéit, et quand on démontre de l'amour les uns pour les autres. Et quand dans notre vie, encore aujourd'hui, en 2025, vont arriver des nouveaux enseignements, des doutes, des inquiétudes, Jean nous dit, demeure en Jésus. Regarde à ce que tu as reçu dès le commencement. Continuons à marcher comme Jésus. Continuons à obéir à sa volonté. Continuons à s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Demeure en Jésus. C'est facile de chercher partout. Hein, l'image des ténèbres est encore forte ici. Quand on est dans les ténèbres, on marche partout, on cherche partout. Puis on se cogne. Ah non, c'est pas là, ah non, c'est pas là. Puis là, vous avez peut-être déjà vu des vidéos où des gens sont dans le noir, puis nous, on les voit avec une caméra qui voit dans le noir. Et là, ils cherchent partout, puis ils se cognent. Puis là, c'est drôle de l'extérieur, mais quand on le vit, c'est vraiment déplaisant. Où est-ce que je vais? Et ce que Jean dit, c'est, « Hey, regarde la lumière! Arrête de chercher partout par toi-même, garde les yeux fixés sur la lumière! » Garde les yeux fixés sur Jésus. Demeure en lui. Quand il y a plein de choses qui arrivent de partout, qui peuvent créer de l'inquiétude, qui peuvent créer un sentiment d'angoisse en toi, qui peuvent dire, « Oh non, où est-ce que je m'en vais? » J'en dis, demeure en Jésus. Garde les yeux fixés sur lui. Reste en sa présence. Garde confiance que lui est là, que lui prend soin de toi, que lui est juste et fidèle pour te pardonner. Jean nous appelle à connaître Dieu, à être en communion avec lui. Et alors qu'on est en communion, ça va nous conduire à marcher dans la lumière, à marcher comme Christ, à venir à lui pour être purifié de nos péchés, à garder ses commandements, à aimer Dieu et notre prochain. Et à ne pas aimer le monde qui cherche à nous éloigner de Christ. Et c'est ça, demeurer en Christ. Et dans cette première partie de l'évangile, de la lettre de 1 Jean, c'est ce que Jean veut nous dire, que Dieu est la lumière. Et que si tu veux continuer à marcher dans la bonne direction, reste près de lui. Fais ce qu'il te demande de faire. Viens à lui régulièrement. Viens à lui si tu as péché et tu as besoin d'être pardonné. Aime comme il aime. Demeure en Christ. Alléluia, Jésus. Père éternel, on te remercie tout d'abord pour ce don incroyable, Seigneur, que tu nous as fait. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous. Merci, toi qui es pleinement Dieu, de t'être donné, d'être venu en tant qu'homme sur la terre et d'avoir donné ta vie pour nous, Jésus. Merci parce qu'en toi, on trouve le pardon. En toi, on est purifié de nos péchés. En toi, on trouve un défenseur qui se tient à la droite de Dieu. Merci parce que tu es notre lumière, Jésus. Tu es celui, Seigneur, qui nous a montré l'amour parfait pour qu'en retour, nous puissions s'aimer les uns les autres. Et ce matin, face à cette parole, face à ces défis de s'aimer les uns les autres, à ce défi de vivre une vie sans péché, qui peuvent être parfois comme une montagne, quelque chose qu'on fait « Oh, je suis pas capable par moi-même ». Seigneur, on veut demeurer en toi. On veut connaître que ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par l'œuvre de l'Esprit. C'est toi qui nous révèles toutes choses. C'est toi qui fais la transformation en nous, Saint-Esprit. Apprends-nous à s'aimer les uns les autres. Apprends-nous à ne pas aimer le monde, mais à rester près de toi.